Nous sommes en compagnie de Su Chiao Shen. Alors Su Chiao Shen est étudiante en ingénierie agroalimentaire à Polytech Lille. Elle est née à Shanghai et elle a fait ses études à l'université de Nankin. Alors Su Chiao, pourquoi avez-vous choisi la France pour continuer vos études hors de Chine? Est-ce parce que le marché agroalimentaire de la France est le premier fournisseur européen de la Chine?
Alors, c'est une bonne question. C'est difficile à dire. En fait, je suis dans un programme d'étudiants exchangés. Franchement, au début, c'est pas moi qui a choisi la France. Je peux choisir y aller ou je peux choisir pas aller rester en Chine. Mais pour moi, c'est une bonne idée. C'est une bonne chance de connaître un pays étranger. Et puis, je pense que, à mon avis, la France, c'est un pays romantique, comme la pensée de tous les Chinois. Donc, suis ici.
Mais alors, c'est quoi ces programmes d'échange?
C'est un programme entre l'Université Lille 1 et mon université, l'Université agricole de Nankin. C'est une université au niveau supérieur. Et puis, on est obligé de passer 2 ans dans Polytech Lille, donc à Lille. Et puis, je vais rentrer en Chine pour finir mes études un peu après un an. Et finalement, je vais obtenir 2 diplômes, un diplôme d'ingénieur et un diplôme de master.
D'accord, donc ingénieur en Chine et master en France?
Non.
C'est le contraire.
Au contraire, oui, ingénieur en France.
D'accord, ingénieur en agroalimentaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la langue française?
C'est trop, trop difficile et c'est très, très élégante.
Oui, mais donc vous parlez quand même très, très bien et ça fait pas longtemps que vous êtes en France.
Oui, j'ai appris, j'apprends le français depuis un peu plus d'un an. J'ai commencé à apprendre le français juste avant ma partie, mon départ en France. Je suis arrivée en France à la fin de février l'année dernière et j'ai appris la langue française dans la maison des langues pendant 6 mois. Et au mois d'août, j'ai passé un examen qui s'appelle l'examen B2. C'est un niveau pour estimer le niveau de la langue en Europe. En Europe, oui. Et oui, maintenant, c'est comme ça.
Bon, en tout cas, vous avez beaucoup travaillé, parce que rien que pour apprendre le français en 6 mois. Mais alors, ça veut dire, en fait, que ce programme d'échange entre l'Université de Nankin et Lille 1 prend des étudiants chinois, les fait venir sans savoir le français. C'est-à-dire que nous, on n'imagine pas, parce que nous, si on va étudier à l'étranger, c'est parce qu'on maîtrise déjà la langue du pays qu'on a choisi. Mais vous, non.
Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça c'est un peu dommage. J'espère que si je peux apprendre un peu le français, je peux apprendre par exemple 2 ans de français en Chine, et puis je suis partie en France, c'est mieux.
Bien sûr. Et donc aucun étudiant chinois finalement ne fait du français avant de venir. Ils font tous de l'anglais.
Je crois que non, parce qu'en en Chine, il y a beaucoup de personnes qui apprennent le français, mais ce sont des niveaux débutants. Et puis on arrête parce qu'on n'a pas la chance, on n'a pas l'ambiance pour parler le français. Et voilà. Donc on apprend l'anglais seulement au niveau scolaire. C'est comme les étudiants français en France.
Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu rapidement et simplement comment fonctionne ce système scolaire en Chine? Quand on commence, à quel âge on commence l'école et comment ça se passe?
C'est juste comme le système français. On commence généralement, on peut commencer à 6 ans ou à 7 ans. La plupart des personnes commencent à 7 ans et puis donc 5 ans pour l'école primaire et 4 ans pour le lycée et 3 ans pour passer le baccalauréat chinois et après on va entrer à l'université chinoise.
Il faut combien de temps pour maîtriser la lecture des caractères chinois pour un petit enfant?
On apprend toujours. Ouais, on a France française.
C'est, ouais. C'est pas fini, vous allez me dire. Oui. Bon, mais en règle générale, disons.
5 ans, on va finir juste avant la fin de l'école primaire.
Mm-hmm. Il y a combien d'heures de cours à l'école primaire en Chine?
6 heures chaque jour.
Mm-hmm.
C'est un niveau général, mais franchement, il y a plus de devoirs en Chine qu'en France.
Il y en a plus.
Oui.
Oui, ça je peux imaginer, effectivement. Mm-hmm. Et il y a une cantine, les enfants mangent à l'école?
Oui, c'est juste comme en France.
Une cantine organisée, ils n'amènent pas un sandwich
Oui, non, ce n'est pas sandwich, c'est un repas chinois.
C'est un vrai repas chinois, avec
ça
des raviolis chinois.
Ouais. On n'est pas obligé de manger sur campus, on peut rentrer chez lui.
Chez soi, oui.
Oui, ouais, chez soi. Oui, c'est ça. Mais faire attention, en fait, il n'y a pas de système de diplôme d'ingénieur en Chine. On a seulement la licence, 4 ans pour la licence, et 2 ans pour le master, ou 2 ans et demi pour le master, et puis pour le doctorat, ça dépend, 3 ans ou 2 ans.
Ah, c'est pour ça que vous venez ici, pour faire le diplôme d'ingénieur, finalement.
Oui, franchement, je ne connais pas du tout qu'est-ce que c'est l'ingénieur. Ça me dit quelque chose en Chine, mais ce n'est pas le même sens en France et en Chine.
Mm-hmm. Une journée d'étudiant en Chine à l'université, c'est bien plus long qu'une journée d'étudiant français.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour le lycée, pour l'école primaire et l'école secondaire, mais pour l'université, je ne sais pas, parce que ce que j'ai vu est que en fait, en France, pour le lycée, c'est assez à l'aise, mais pour l'université comme le Polytech Lille, c'est vraiment pénible.
Enfin, si vraiment les Chinois trouvent qu'on travaille beaucoup à Polytech Lille, c'est peut-être bon signe finalement. Ça veut dire
La langue française pose toujours le problème.
Oui, mais si on enlève la langue, je pense que l'intensité du rythme de travail d'un étudiant chinois est quand même plus forte.
Oui, 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 oui.
Mais si on enlève évidemment le problème de l'apprentissage de la langue.
Oui, vous avez raison.
Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez de notre université française avec les blocages et les grèves et tout ça?
Ah, ça m'étonne beaucoup, beaucoup. Parce qu'en Chine, on n'a pas la grève. On ne fait pas la grève.
Oui,
on ne fait jamais la grève. Si on fait une grève, c'est très, très grave. C'est quelque chose de politique. Mais ici, on fait souvent la grève. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi on fait la grève en France. Peut-être on peut dire quelque chose au gouvernement. Sous une forme assez grave, mais je ne comprends toujours pas.
Ah oui, parce que Polytech est bloqué, il y aura des examens.
Oui, il est bloqué, et puis le pire, on est obligé de rattraper tous les cours. Voilà. Ça me gêne.
Bah oui, surtout que vous venez exprès de l'étranger pour travailler ici.
Oui, oui.
Donc, pour tous les étudiants étrangers, c'est un gros problème. Pourquoi vous avez choisi en Chine de faire des études de technologie alimentaire plutôt qu'autre chose?
Parce que, honnêtement, je pense que la sécurité des aliments, c'est très, très important. C'est un domaine assez nouveau en Chine. Et je ne fais jamais confiance dans ce domaine en Chine pour l'instant. C'est pour ça que je voudrais avancer un petit peu. Je voudrais donner un petit peu de gousse à ce domaine. J'espère.
Alors, quand vous parlez de la sécurité alimentaire, bon, on pense évidemment au scandale du lait contaminé. Hein, tout de suite, là, c'est ce qui nous vient à l'esprit. Mais évidemment, il y a tout ce qu'on ne sait pas ici. Alors, moi, je pense à la pollution aussi, qui évidemment n'arrange rien. Les engrais, les pesticides. Est-ce que la Chine est ouverte aux OGM?
La Chine, dans cette partie, le gouvernement, franchement, le gouvernement fait beaucoup d'efforts, avance beaucoup. Il limite la teneur de pesticides, par exemple. Il limite la pollution. Mais on n'arrive toujours pas à la même limite qu'en Europe ou aux États-Unis.
Et vous pensez que vous pourrez y arriver, enfin que c'est bien parti?
Oui, c'est sûr. Mais maintenant, actuellement, beaucoup de personnes dans des grandes villes comme Shanghai ou Pékin, les personnes, se sont déjà aperçus la conscience de la sécurité alimentaire. Et on parle aussi de repas d'équilibre ou la production bio. Mais vous savez, la Chine est un pays en voie de développement, donc il y a encore des zones qui ne connaissent pas trop la sécurité des aliments ou la production bio.
Bien sûr, hein, du bio, vous pensez que ça peut se développer en Chine?
Oui, oui. Ça ne développe pas très bien, mais beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes choisissent la production bio si l'économie, le pouvoir d'achat, ça
va. Bien sûr. Bah, en fait, le développement des villes appelle cette consommation bio, évidemment.
Exactement.
Alors justement, les caractéristiques de l'agriculture chinoise, parce que bon... J'imagine que la Chine qu'on n'a pas connue, hein, celle d'avant, le grand bond en avant de Mao de 58 à 52, de 58 à 62, pardon, si je mets un grand bond en avant à l'envers, ça ne va pas. J'imagine qu'il a changé le paysage.
Oui.
Donc, y a eu une collectivisation, il y a eu une grande production de céréales. Donc, du coup, la Chine agricole d'avant Mao et celle d'après, bah, c'est plus la même. Un voyageur ne s'y reconnaîtrait pas.
En fait, avant Mao et pendant la période de Mao, on a fait trop d'attention à quantité. Oui, et maintenant, on fait plus d'attention à la qualité. Donc ça, c'est la différence plus évidente. Et puis, franchement, avant, on fait des bêtises sur la terre. Donc, il y a des terres dégradées, et il y a la désertisation, par exemple, et on a coupé beaucoup de forêts pour faire les baguettes. Maintenant, on va améliorer cette partie.
Alors, il y a peu de terres cultivables en Chine. Hein. Je rappelle qu'il y a 7% de terres cultivables pour nourrir 22% de la population mondiale.
Oui,
parce
c'est
que
dommage.
Vous êtes 22% quand même. Hein.
Nous sommes étonnants.
C'est pas mal. Alors comment on a réparti les cultures sur ce peu de terres cultivables entre le nord, l'ouest, le sud, l'est?
On cultive surtout dans la partie à l'ouest. À l'ouest, à l'ouest. Parce qu'à l'est... À l'est, il y a des grandes villes comme Shanghai ou Pékin, donc et Hong Kong aussi. C'est un peu à l'est. C'est plutôt à l'est. Donc à l'est, on développe l'économie, on développe les technologies, nouvelles technologies, on développe aussi des industries. Mais à l'est, on reste encore une grande partie de. À l'ouest. On reste encore une grande partie de culture.
Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas une carte de Chine sous les yeux, quand vous dites l'Est, c'est la bande côtière, en fait.
C'est
c'est la côte.
Oui.
Et l'Ouest, c'est la Chine intérieure.
Oui.
Alors, nous, en France, quand on pense Chine et agriculture, on pense riz, parce que, bon, ça nous paraît normal.
Blé.
Et on pense thé. Alors, où on cultive le riz et où on cultive le thé?
Le thé, on cultive surtout...
À l'ouest, mais au sud.
Au sud, oui.
Oui.
Au sud, oui. Mais le riz, on cultive partout, parce que c'est l'aliment base. Et tout le monde mange le riz. Il y a encore un truc que je voudrais dire. Parce qu'en Chine, il y a des zones autoritaires. Ce sont des zones autonomes. Donc les personnes d'origine mongolide, des personnes d'origine coréenne ou les autres personnes, ils mangent pas le riz, ils préfèrent le noodle, la pâte. Ça arrive souvent, mais c'est une petite partie, donc c'est pas vrai la Chine.
Alors qu'est-ce que la Chine cultive le plus, le riz ou le blé?
Le riz.
Ah, le riz quand même. Oui. Oui. Et après le blé?
Après le blé, le maïs aussi.
Le maïs, oui.
La production de maïs, c'est étonnant.
Est-ce que la Chine exporte?
Le maïs et l'oignon.
Ah bon? Ah tiens, peut-être que j'achète des oignons chinois. Non, je ne savais pas qu'il y avait tant d'oignons que ça. Alors, en termes de technique agricole, est-ce que c'est resté traditionnel? Est-ce que ça s'est modernisé?
Pardon?
Est-ce que c'est resté traditionnel? La façon de cultiver,
oui.
Ou c'est très moderne?
C'est pas très moderne, c'est pas si moderne qu'aux États-Unis. mais il y a des scientifiques qui font des recherches sur l'amélioration des plantes. On a déjà arrivé à cultiver des haies super. On a dit souvent des haies super ou des haies supérieures. Ce sont des haies qu'on peut cultiver chaque saison et on peut récolter chaque saison 3 fois ou 4 fois. C'est étonnant, mais ce n'est pas très développé.
Non, mais la terre, elle va être épuisée avec 4 récoltes de riz par an.
Ça, c'est le problème.
Est-ce que les surfaces cultivables sont petites, grandes?
Grandes. C'est très très grande.
Oui, et ça date de Mao.
Oh, oui.
Parce qu'il a cassé la petite propriété, donc oui. Du coup on a des grandes exploitations.
La Chine avance toujours, mais on a besoin de temps, on a besoin de la chance, on a besoin de l'argent.
Ah oui, ça c'est comme tout le monde, on dirait. Alors justement, il y a eu une très forte croissance depuis 2000, et donc il y a eu un exode des campagnes vers les villes. Et aujourd'hui, il y a la crise. Donc les migrants reviennent à la campagne, comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent redevenir cultivateurs? Est-ce qu'il y a du travail pour eux?
Parce que je suis née à Shanghai, donc je connais très bien la vie urbaine, mais dans la vie de campagne, c'est vrai que la plupart des personnes veulent travailler dans les grandes villes. C'est une bonne façon pour gagner la vie. Mais dans la campagne, on peut cultiver, mais c'est trop fatigant, c'est travailleux. Donc, c'est pas une bonne idée de travailler là-bas. Mais sous la forme, sous l'ombre de la crise économique, on n'a pas le choix.
Mais avec 800 millions de paysans, ils sont encore majoritaires en Chine.
Et oui, oui.
Vous pensez que ça va durer longtemps? Enfin, comment vous voyez l'évolution de ces paysans et de la vie agricole par rapport au développement de la Chine?
Moi, je crois que ça, c'est un cycle. Pourquoi je dis ça? Parce que au début, la majorité de la population sont des paysans. On fait des cultures générales, on fait des cultures assez pauvres, assez, pas très avancées. Alors, de plus en plus, on préfère de travailler dans des grandes villes pour gagner la vie. On travaille dans des domaines des industries et maintenant on rentre dans la campagne pour redevenir des paysans. Mais de toute façon, il n'y a toujours pas une grande amélioration sur la technologie. Si on change la vie, on avance plus sur la technologie, sur la science, on peut avoir un bel avenir. Et puis, à ce moment-là, je crois une partie des personnes vont être contentes de redevenir les paysans.
Donc finalement, vous êtes optimiste là-dessus. En tout cas, ce que vous étudiez ici vous servira là-bas pour développer et participer.
Oui, c'est quand même un peu différent. Parce que j'ai étudié l'agroalimentaire ici et j'ai étudié la sécurité des aliments en Chine. C'est pas la même chose. Mais l'agriculture, je connais encore pas trop.
Bon, eh ben, vous avez tout le temps pour apprendre, en tout cas.
Oui.
Su Chaoshen, merci.